Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Air du Roi pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur les ondes FM en 107.5 ou alors en podcast aussi sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui au studio, nous sommes en compagnie de monsieur Mathieu Rivero. Bonjour.
Bonjour.
Mathieu Rivero, vous êtes chargé de mission pour la forêt et la filière bois au sein du parc naturel régional du Vercors. Et vous êtes ici pour nous annoncer une deuxième édition d'un dispositif que vous aviez créé en 2018 qui s'intitule « Vie ma vie de bûcheron en Vercors ». Alors, on peut déjà proposer aux auditeurs ce qu'est ce dispositif et ce qu'on pourra y trouver. Et puis, on remontera à la première année de sa création, à savoir ensuite sur quel débouché ça l'a permis de continuer ou de peut-être proposer une sorte de synergie aussi.
Oui, alors en fait, là, précisément, on est dans la quatrième édition, puisque c'est des éditions annuelles. Donc effectivement, la première a eu lieu dans le Vercors en 2018, qui avait relativement bien fonctionné. Du coup, on a décidé de la poursuivre dans le temps, donc en 2019, en 2020. Et là, cette année, on l'amène pour la quatrième année consécutive. Donc le principe, c'est de permettre au grand public de se glisser dans la peau d'un bûcheron, donc de découvrir un petit peu les métiers qui entourent la forêt, ce qui s'y déroule, donc auprès d'un gestionnaire et puis d'un entrepreneur de travaux forestiers, donc des bûcherons, et du coup de vraiment s'immerger, de se mettre en situation pour visiter en fait des vrais chantiers forestiers. Donc c'est pas un arbre qu'on vient marquer et abattre comme ça pour faire une démonstration, c'est vraiment des chantiers tout à fait réels. L'idée c'est de permettre aux gens d'accéder au plus près du terrain pour voir comment se passe la gestion et l'exploitation forestière.
Ma vie de bûcheron se déroulera sur plusieurs secteurs, si je comprends bien.
Oui, alors l'idée c'est de faire 7 demi-journées. On essaie de mailler le territoire du mieux possible. Donc ça se déroulera les vendredis matin entre le 16 juillet, donc du coup cette semaine, le 1er, et puis fin août, donc le 30 août, ce sera la dernière édition. Donc il faut savoir qu'il y a des difficultés pour caler les chantiers puisque tout ça est relativement mouvant. Dans un chantier, les entrepreneurs viennent, ils repartent, donc c'est pas facile de connaître les secteurs longtemps à l'avance. Donc là, on a fait une ébauche en fait pour répartir par grands secteurs géographiques. Donc les premières dates, ça sera plutôt côté isérois, dans le secteur Trièves, agglomération grenobloise. En plus, on aura deux dates sur le Vercors drômois. Ensuite, on aura des dates sur le secteur des Quatre Montagnes et puis sûrement une dernière date sur le secteur Royan-Coulme.
Alors, ma vie de bûcheron, on peut le répéter aux auditeurs, pourquoi créer justement ce dispositif? Cela vous permet quoi en quelque sorte?
Alors du coup, c'est une édition qui n'a pas été inaugurée dans le territoire, mais elle est née dans les Bauges en fait, en 2015 ou en 2016, je ne sais plus très bien, par le parc naturel régional des Bauges. Ensuite, elle a été importée en Chartreuse en 2017 et nous, on a décidé de la mener en Vercors en 2018. Et en fait, ça rejoint une aspiration des forestiers qui est de faire découvrir leur métier en fait, puisqu'on s'aperçoit que la forêt française est très méconnue et paradoxalement, et notamment depuis le dernier confinement, il y a beaucoup de gens et de plus en plus qui se rendent en forêt. Ça, c'est dû également au fait du développement des nouvelles technologies, VTT assistance électrique, etc. Donc beaucoup de gens qui se déplacent en forêt, mais paradoxalement, on ne sait pas très bien qu'en forêt, il y a une réglementation. Je rappelle que le premier code forestier date de 1669, Colbert, donc voilà ce qui va instituer des taux de prélèvement dans certaines parcelles avec cette idée de préserver le manteau boisé, donc au départ pour faire des mâts de bateau et puis ensuite pour tout un tas d'autres usages. Donc aujourd'hui, on a du bois d'œuvre pour faire des charpentes, de l'ébénisterie, des meubles, etc. Du bois énergie aussi pour chauffer, puis après du bois d'industrie, palettes, trituration, etc. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de, voilà, de, d'instaurer, j'allais dire, un cadre de dialogue entre les professionnels et puis les touristes. Parce qu'en fait, c'est régulièrement qu'il y a des gens qui posent des questions aux bûcherons, etc. Mais néanmoins, souvent, ça se passe dans le cadre de leur travail, de leur activité professionnelle, et puis ils ne sont pas toujours disposés à répondre parce qu'ils n'ont pas le temps, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment de leur permettre de parler de leur métier et puis vraiment de montrer aussi en situation. Abattre un arbre, ça ne s'improvise pas, il y a des règles à respecter, des règles de sécurité, déjà, et puis ensuite, des règles, j'allais dire, sylvicoles, puisque quand on est sur une parcelle qui est gérée en futaie irrégulière, on a des grands arbres, des petits arbres, tout ça mélangé. Et quand on va abattre l'arbre, il faut veiller à ne pas faire trop de dégâts sur la parcelle. Donc tout ça suppose un savoir-faire technique, donc qui s'acquiert par la formation et aussi par l'expérience. Et du coup, on a pensé que c'était bien de mettre ça en valeur.
Parmi ce public, est-ce que vous souhaiteriez justement des personnes qui seraient partie prenante ensuite dans ce domaine, d'être par exemple bûcheron, ou est-ce que ça c'est aussi un moyen pour des jeunes à connaître cette filière professionnelle ?
Oui, alors là on n'a pas vraiment ciblé de public type à proprement parler, mais néanmoins effectivement on a déjà eu des jeunes l'an dernier notamment qui ont participé, qui se posaient des questions en matière de reconversion professionnelle et tout, et qui voulaient voir de leurs propres yeux comment ça se déroulait. Donc voilà, si ça peut induire des vocations, tant mieux. Ouais.
Alors, le secteur bois et forêt, filière bois, du parc naturel régional du Vercors, cela regroupe combien d'hectares de parties boisées, et puis combien de personnes sont effectives en travail sur ce secteur ?
Oui, alors ce qui caractérise notamment le parc du Vercors, c'est la superficie de sa forêt. Hein. On a un taux de boisement qui est d'environ entre 60 et 65%. Donc il faut savoir que c'est le double de la moyenne nationale. Donc voilà, c'est conséquent. Ça représente plus de 130 000 hectares. Là-dessus, effectivement, il y a des gestionnaires forestiers en amont de la filière, des propriétaires bien sûr, des entrepreneurs de travaux forestiers, donc des bûcherons, des débardeurs, des transporteurs qui vont amener le bois en scierie, des scieurs, situés notamment sur les pourtours du parc. Et puis après, ça découle. Donc au niveau national, la filière forêt-bois, ça représente 450 000 emplois, donc ce n'est pas rien, c'est plus que l'automobile, par exemple. Et donc en Isère, il y a une étude qui avait été faite par l'interprofession, donc FIBOIS, il y a quelques années, et qui avait mis en évidence le fait que ça induisait quand même 6900 emplois. Donc dans la Drôme, ça doit être un petit peu moins, mais on reste sur des ordres de valeur qui sont assez similaires. Donc voilà, derrière la forêt, il y a des hommes et il y a une activité.
Là, vous parlez principalement du plateau, du Vercors. Justement, qu'en est-il par rapport au changement climatique ? Est-ce que vous constatez un changement justement de cette nature ?
Alors le changement climatique, c'est un grand sujet. Donc je disais tout à l'heure que la communication auprès du grand public, c'était un des axes majeurs de travail en forêt. Mais le changement climatique, c'est celui qui chapeaute tout, j'allais dire. Donc effectivement, il y a des changements qui se produisent. Si on élargit un peu le spectre, on a tous en tête les dépérissements qu'il y a eu dans certaines zones de l'Est et du Nord-Est de la France. Et puis plus près de nous, dans les Savoies. Donc en fait, on est sur des peuplements, par exemple d'épicéas, des plantations, qui sont pas forcément adaptées du fait des contraintes hydriques, ce qui fait qu'il y a des dépérissements en chaîne. Donc tout ça, il y a des conséquences qui sont visibles sur le territoire, puisque du coup, au niveau du marché du bois, il y a eu un phénomène de saturation. Donc avec des méventes sur les bois dans le Vercors. Et puis après, dans le Vercors, c'est vrai qu'on constate aussi, même si pour l'instant on est encore pas dans une situation catastrophique, mais on constate des dépérissements. Alors c'est principalement sur l'épicéa, dans certains secteurs, donc en dessous 1000 mètres d'altitude, quand la pluviométrie est assez faible, et ce qui est de plus en plus le cas avec les sécheresses récurrentes, là on commence à avoir des phénomènes de dépérissement, donc ça pose des questions. Qu'est-ce qu'on va planter comme arbre plus tard? Voilà. Et puis aussi sur le sapin, on commence à avoir des secteurs où on constate des dépérissements, dans le trièvre par exemple. Donc pour l'instant, c'est encore relativement éparpillé, c'est pas des phénomènes massifs, mais tout laisse à penser que voilà, ça le sera un jour, probablement dans un avenir proche. Donc voilà, la grande inquiétude des forestiers, c'est de savoir quel type d'essence on va planter, puisque on n'est pas sur des récoltes comme en agriculture annuelle. Là, on va être, pour faire un arbre, il faut 50, 60, 80 ans. Et donc, on va implanter une essence aujourd'hui, mais comme on maîtrise mal, en fait, même si on a une idée des tendances d'évolution du climat, on maîtrise mal tout ce qui se passe dans des intervalles courts, ce qui fait que on ne peut pas savoir si ces essences seront effectivement adaptées. Puis après, il y a des questions qui se posent aussi en matière de commercialisation des bois, de propriétés mécaniques, etc., des marchés qu'on maîtrise mal dans une temporalité de plusieurs décennies, quoi.
Justement, vous parliez d'épicéa, c'est l'arbre qu'on trouve majoritairement sur le plateau ?
Alors sur le plateau, sur le périmètre du parc, si on schématise un petit peu, on va avoir effectivement le plateau du Vercors, où on va trouver l'épicéa en mélange beaucoup avec le sapin, et puis l'hêtre aussi, ça va vraiment être les trois essences qui vont dominer. Et puis ensuite, sur toutes les zones des contreforts, on va avoir des sols moins fertiles, avec des roches superficielles. Donc tout ça, conjugué aux influences climatiques différentes aussi, vont faire qu'on va avoir des essences distinctes. Donc par exemple, on peut avoir des peuplements d'éboulis, sur des zones un peu plus sèches, des peuplements de chênes pubescents. Et puis on a plusieurs autres types de peuplements, notamment les forêts qui sont issues de la déprise agricole. Donc là, qui vont se reboiser naturellement en pin sylvestre, principalement. Et puis, on a beaucoup de zones aussi, comme dans le Diwa notamment, où il y a eu des plantations de pin noir, notamment à la fin du 19e siècle, en fait, par l'unité de la restauration des terres en montagne. Donc voilà, où là, on a fait des grandes campagnes de reboisement pour préserver les sols, notamment quand il y avait des villages en bas et qu'il y avait des risques d'érosion, d'éboulement. Voilà, on a fait des grandes campagnes de reboisement en pin noir. Et puis, à côté de ça, il y a tout un tas d'essences qui peuvent être introduites, donc des pins lariciaux, enfin voilà, plusieurs types d'essences. Voilà, mais si on décompose, on a à peu près ça.
Je reviens alors sur ces arbres, donc l'épicéa, le pin sylvestre, le hêtre. Ces trois essences sont arrivées naturellement ou alors c'était une politique de boisement avec des essences particulières en fonction d'un marché peut-être aussi ?
Alors c'est un petit peu les deux. On est dans l'ère de naturelle de répartition de l'épicéa et du sapin. Mais néanmoins, comme l'homme est de tout temps intervenu en forêt, forcément il a privilégié certaines essences. Notamment en zone de montagne, le résineux au détriment du feuillu, parce que c'est un bois où il y avait plus de débouchés déjà, des meilleures qualités mécaniques. Les essences qui vont être favorisées, jusqu'à maintenant en tout cas, et avant les inquiétudes massives qu'on avait par rapport au changement climatique, c'était vraiment le sapin et l'épicéa, puisque quand il est bien géré, on a des fûts droits, élancés. Quand les coupes sont faites récemment, on a des cernes régulières, donc ce qui favorise les propriétés de résistance mécanique des bois. Et puis, à côté de ça, d'autres essences qui étaient cultivées dans le but notamment de faire du bois de chauffage, donc du bois bûche, mais aussi, à une époque, du charbon de bois. Donc des massifs comme les coumes, par exemple, qui étaient principalement constitués de hêtre, et là, ça venait pour faire du charbon de bois.
À l'heure actuelle, la réflexion est de savoir quelles essences remplaceraient peut-être certains arbres, puisqu'ils seraient dénués d'eau, en quelque sorte.
Oui, alors en fait, la tendance aujourd'hui, ça va être de chercher des arbres qui vont être moins gourmands en eau, effectivement, plutôt qui vont être capables d'encaisser des sécheresses. Donc là, l'idée, ça va être d'aller chercher des essences plus méridionales, puisque les essences ont une capacité de migration de leur propre fait, mais néanmoins le changement climatique est tellement rapide que les sylviculteurs en tout cas préconisent d'assister un petit peu. Donc là, par exemple, pour des sapins, on va prendre des sapins de Turquie, des sapins plus méridionaux, du cèdre aussi, de l'Atlas notamment. Voilà, c'est les deux essences. Il y a les essences et puis les provenances derrière. Donc on peut continuer à faire du sapin dans le Vercors, mais en allant chercher des provenances plus méridionales. Et en fait, ce qui est difficile, c'est que bah, malgré tout, on peut avoir quand même encore des hivers rigoureux, des gels tardifs, qui fait qu'on est un peu dans un entre-deux, quoi. Donc il faut trouver des essences qui soient suffisamment plastiques pour s'adapter à toutes ces situations.
La filière bois, en général, se comporte de quelle manière ? Est-ce que tout va bien ? Ou alors il y a parfois des difficultés de productivisme ou de commercialisation ?
Oui, alors effectivement, il y a. Il y a de la production, il y a du volume en France. Par contre, effectivement, il y a tout un tas de questions économiques qui se posent. Notamment, on a vu des articles récemment sur des achats de la part des Chinois, par exemple, qui vont acheter du bois d'œuvre ici. Nous, on l'expédie et on va le réimporter, transformé derrière sous forme de parquet. Donc voilà, c'est pas tout rose. Ça pose des questions, effectivement.
On parle de relocalisation. Est-ce que ça aussi, c'est une perspective à envisager, justement, pour valoriser l'agriculture du bois, ou du moins la production du bois sur le Vercors ou en France même ?
Alors, relocalisation, c'est vrai que l'avantage de la forêt, c'est que ça induit déjà pas mal d'emplois non délocalisables, puisque les arbres, ils poussent ici, ils sont coupés ici. La première transformation est pas mal effectuée sur place aussi. Donc tout ça, c'est des opérations qui ne sont pas délocalisables. Par contre, après, effectivement, il y a tout un tas de questions qui se posent par rapport à l'investissement dans le matériel de transformation. Puisque nous, on a une forêt aussi au niveau national qui est diverse. Hein. On a des feuillus, des résineux, des classes d'âge mélangées, plein d'essences différentes. Donc tout ça se prête mal à une mécanisation massive. En Allemagne, par exemple, où il y a des forêts, ou même dans les pays nordiques, au Canada, où on a des centaines d'hectares plantés en résineux, là forcément c'est beaucoup plus facile sur des zones plutôt planes, c'est plus facile d'avoir un outil industriel qui soit calibré pour ces arbres-là, quoi. Nous, il faut composer avec la diversité, mais qui est aussi une richesse du coup, puisque qui dit essence différente dit meilleure résilience par rapport au changement climatique, dit biodiversité accrue.
Voilà. Je reviens aussi aux partenaires du parc naturel régional du Vercors, avec la région qui permet quel apport justement sur le plateau.
Alors nous, du coup, dans cette opération qui est portée en maîtrise d'ouvrage parc, effectivement, on bénéficie de l'aide de la région, mais également des deux départements, l'Isère et la Drôme. Et tout ça réuni, on arrive à 80% de subvention sur la manifestation, et le reste, on vient le financer en autofinancement. Et donc, maîtrise d'ouvrage parc. Et puis derrière, il y a plusieurs partenaires aussi qu'il faut citer. Donc, on délègue l'organisation à Fibois, qui est l'interprofession de la filière forêt-bois. Donc en Isère, mais aussi au niveau régional. On travaille beaucoup avec les offices de tourisme aussi, qui vont se charger de faire la communication de la manifestation, mais également de recueillir les inscriptions, ce qui suppose un travail conséquent. Et puis, bien sûr, les gestionnaires, donc les gestionnaires publics, l'Office national des forêts, les gestionnaires privés, donc il y a des experts forestiers, il y a la coopérative forestière, il y a tout un tas d'intervenants. Et puis, bien sûr, les bûcherons, les entrepreneurs de travaux forestiers du territoire.
L'appel de la forêt, tu as aussi un partenaire, c'est celui de l'Isère.
Oui, alors en fait, l'appel de la forêt, c'est une programmation du département de l'Isère, une programmation culturelle, donc qui va conjuguer des manifestations portées en propre par le département et puis par ses structures, les archives départementales, les musées, etc. Et puis il y a un volet qui va permettre aussi au territoire de porter des actions. Et donc nous, dans le Vercors, mais aussi d'autres massifs qui organisent Vima Vie de Bûcheron, comme Baldonne ou la Chartreuse, on a proposé que cette manifestation soit labellisée Appel de la forêt. Donc du coup, ça va permettre de mettre ça en visibilité aussi et d'accroître la communication autour.
Donc là, on revient sur Vie, ma vie de bûcheron. En quelque sorte, c'est une visite d'une matinée avec des professionnels de la forêt. Et donc, qu'est-ce qu'on leur donnera précisément à voir dans cet exercice ?
Oui. Donc, alors du coup, il y a un point de rendez-vous qui est fixé, hein, on covoiture, on se rend sur le chantier. Donc, on essaye de trouver des chantiers qui soient relativement peu éloignés, hein, donc maximum 10 minutes de marche. Ensuite, il y a une présentation des règles de sécurité qui est effectuée. Et du coup, à cette occasion, on distribue des chasubles et un casque aux participants. Ensuite, il y a une mise en contexte qui est faite. Les grands acteurs qui interviennent en forêt, les grandes lignes de la réglementation, donc sans rentrer dans le détail, hein, bien sûr, mais voilà. Et puis ensuite, il y a le gestionnaire qui va prendre la parole. Donc lui, il va expliquer ce que c'est son métier, déjà, pour qui il travaille, comment il travaille. Et puis ensuite, on va descendre progressivement à la parcelle. Donc comment gérer cette parcelle, futée irrégulière, c'est quoi l'objectif, en fait, quel arbre pour quel usage. Et puis ensuite, y a les arbres qui sont marqués, forcément. Et là, le professionnel, le gestionnaire, va venir expliquer pourquoi tel arbre va être abattu et pas tel autre. Donc en prenant en considération toutes les variables du milieu. Et suite à ça, il y a le gestionnaire qui va expliquer comment il va procéder, qui va faire réaliser une démonstration d'abattage. Donc souvent, il fait son entaille directionnelle, il arrête la machine. Il explique aux gens comment il a fait son entaille. Il va dire l'arbre, il va tomber là. Et puis 99% du temps, l'arbre tombera effectivement là où il a dit. Ensuite, les gens se reculent forcément. Et donc il y a l'arbre qui a battu. Il est branché, façonné. Et puis suite à ça, il y a des échanges en fait avec le public. Donc c'est bon enfant. Hein. Les gens sont curieux. La plupart des gens ne sont pas forcément accoutumés à la forêt, à sa gestion, mais ils sont curieux de découvrir, en fait. Du coup, souvent, ça discute bien. Et ça dure une bonne matinée.
Il existe des vidéos que j'ai visionnées sur Internet qui montrent aussi des appareils, des engins qui traitent l'arbre, c'est-à-dire la prise au pied et puis de le scier et ensuite de les brancher, le façonner, tout ça en l'espace de quelques minutes. Ce type d'engin, est-ce qu'il est praticable sur le plateau à cause du relief ou pas ?
Alors, donc là, vous faites mention des abatteuses, effectivement. Donc, pour amener des abatteuses, il y a des contraintes déjà de peuplement qui doivent être adaptées pour ces engins-là, donc qui supposent des plantations, en fait, hein, des arbres bien alignés pour que l'abatteuse n'aille pas à droite et à gauche et perde du temps. Il faut un volume conséquent aussi sur la parcelle pour les déplacer. Et puis surtout, il y a des contraintes topographiques. Donc au-dessus une pente supérieure à 25-30%, l'usage commence à être assez limité. Donc tout ça fait que il y en a, mais bon, ça représente vraiment la minorité des exploitations, quoi. Nous, sur le Vercors, on est sur des forêts qui sont gérées en futaie irrégulière, hein, pour la plupart, aux trois quarts à peu près, même un peu plus. Et du coup, ça va être des techniques traditionnelles, quoi. Donc le bûcheron qui va battre l'arbre, et puis ensuite un tracteur forestier, débardeur, qui va être muni d'un câble, qui va venir tirer l'arbre jusqu'à une piste, et puis après il va être acheminé à une place de dépôt, et là il sera chargé sur un camion.
Donc la place de l'homme est encore là pour un moment ?
Je pense, oui, j'espère.
Oui, on peut l'espérer. Qu'est-ce qu'on ressort auprès du public qui revient justement d'une matinée comme celle-ci ?
Alors du coup, suite aux visites à proprement parler, on invite les gens à laisser leurs coordonnées, et du coup il y a une enquête, une enquête qui est faite. Donc, qui fait ressortir globalement que les gens savaient, au moins les gens qui ont pris la peine de répondre, savaient peu de choses de la forêt avant. Donc, ils en ressortent avec les idées un petit peu plus claires. Ce qui ressort pas mal, c'est le côté impressionnant de la démonstration d'abattage. Puisque, on a l'image un peu stéréotypée du bûcheron, mais on n'a pas forcément connaissance de toute la technique que ça requiert derrière. Donc ça, notamment pour les enfants, ils sont quand même assez impressionnés. Et puis, globalement, les gens sont plutôt satisfaits, en fait, du contenu et du déroulé. Et puis, c'est toujours bien d'être en pleine nature, de s'immerger en forêt.
Ça nécessite aussi une très bonne condition physique aussi. Entre le déplacement sur le terrain et puis la manipulation d'engins plus ou moins lourds. Est-ce que, justement, on se souvient des bûcherons qui sciaient ou qui passaient à la hache? Ça, c'est une époque révolue, j'imagine. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des possibilités d'améliorer encore les conditions de travail?
Alors, nul ne maîtrise les évolutions technologiques, mais effectivement, maintenant, on a exclusivement des exploitations par tronçonneuse. Donc, le matériel s'allège quand même au fur et à mesure, mais néanmoins, on a des tronçonneuses quand même d'une cylindrée relativement importante. Donc, voilà. Donc, déjà, la tronçonneuse en elle-même pèse lourd, 6, 7 kilos. Voilà, donc il y a la tronçonneuse. Ensuite, bah, il faut porter l'huile et l'essence, puisque bah, il faut refaire le plein, il faut graisser la chaîne. Il faut porter le merlin et les coins, parfois un tire-fort, le casque, l'équipement de sécurité aussi, puisque pantalon anti-coupure, bottes anti-coupure aussi, bah, tout ça c'est lourd à porter, surtout quand il fait chaud. Et puis à ça, vous ajoutez les temps de déplacement liés au fait qu'on est en montagne et que ça grimpe. Et ben du coup, effectivement, c'est des journées qui peuvent être harassantes. Oui, le métier de bûcheron a toujours été difficile, et malgré les quelques innovations qu'il y a eu en matière technologique, ben, ça reste un métier extrêmement dur, quoi.
Je vois aussi sur ces visites organisées, vous passez aussi sur des propriétés privées. Là aussi, vous avez pouvoir sur le prélèvement des arbres.
Alors, le prélèvement des arbres, il se fait à la décision du propriétaire. Hein. Donc, effectivement, tout à l'heure, j'ai parlé un peu des arbres, mais au niveau de la propriété foncière, au niveau national, on est à trois quarts de forêt privée, et puis un quart de forêt publique. Les forêts publiques sont gérées par l'Office national des forêts, en vertu du régime forestier. Et puis, les forêts privées peuvent être gérées par les propriétaires forestiers eux-mêmes. Donc ça, c'est souvent quand il y a une taille modeste. Et puis après, quand on arrive sur des superficies un peu plus grandes, souvent, il y a un accompagnement qui est fait par un gestionnaire forestier, des gens sous régime libéral, donc des experts forestiers, par exemple. Et puis après, des structures, des coopératives, ce type de structure. Donc sur le Vercors, on est à peu près à 50-50 en répartition entre privé et public, et du coup, les chantiers en forêt privée se font à la discrétion du propriétaire, en fait. Et ce qu'on essaye de montrer aux gens à travers ces visites, c'est des chantiers de toute nature, en fait, qui se situent en forêt publique, mais aussi en forêt privée, justement pour montrer que derrière la forêt, il y a un propriétaire, etc. Et puis que tout n'appartient pas aux communes, ni tout aux privés. Mais voilà, bien de montrer aussi les différences qui peuvent ressortir en matière de gestion, de commercialisation des bois, par exemple, pour montrer un peu tout l'éventail des possibles.
Étant chargé de mission auprès de la forêt, des bois et de la filière bois, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des consignes que vous aimeriez indiquer aux promeneurs, par exemple, sur ces sites?
Oui, déjà d'être extrêmement vigilant. Donc les chantiers sont mentionnés souvent par des écriteaux, hein, des pancartes. Donc ça, c'est obligatoire. Donc là, il y a connaissance. Donc quand il y a marqué ça et puis qu'il y a une déviation qui est introduite, ce qu'on fait souvent, nous, par le biais au parc, puisqu'on a un réseau de sentiers qu'on gère, donc il y a les éco-gardes qui passent, et souvent, les chantiers sont signalés, il y a une déviation qui est mise en place. Donc là, c'est extrêmement important, en fait, de ne pas traverser absolument. S'il y a défense de traverser, il ne faut pas traverser, puisqu'il peut y avoir des accidents. Un bûcheron, il a ses... Il a le bruit de la tronçonneuse, il a pas forcément toujours, il peut pas regarder à 360 degrés tout le temps, donc il y a un arbre qui peut tomber, et voilà, s'il y a quelqu'un, ça peut, il y en a eu hein, récemment en Savoie, voilà, des accidents mortels, donc là il faut vraiment être extrêmement vigilant par rapport à ça. Et puis le deuxième point de vigilance, c'est éviter de monter sur les piles de bois. Vraiment, souvent on se gare sur des places de dépôt, il y a des piles de bois. Les enfants aiment bien monter dessus, donc c'est vrai que c'est ludique, mais il faut éviter, parce qu'il suffit qu'il y ait un arbre qui roule ou etc. Et puis c'est plusieurs tonnes, et voilà, ça peut avoir des conséquences, quoi. Donc voilà, c'est les deux principaux points de vigilance qu'il faut avoir.
Donc ces visites sont visibles ou du moins consultables aussi pour leur date sur un site internet, j'imagine, et on peut indiquer celui-ci.
Oui, donc il y a le site du parc déjà, mais aussi il y a d'autres sites. Hein, il y a un site dédié, vimavidebucheron, tout attaché en minuscule, .org, qui va présenter toutes les manifestations au niveau régional, le site du parc, j'ai dit, et puis ensuite les offices de tourisme aussi qui font le relais, certaines mairies. Donc on essaye de mettre des affiches aussi dans les secteurs, dans les magasins, des flyers de communication.
Justement, ça commence à partir de quand ça a déjà commencé, ces visites?
Alors ça commence cette semaine, c'est le 16 juillet en fait, la première date.
Très bien. Et je voulais savoir, là, ça permet de couvrir l'été en quelque sorte. Et est-ce que vous proposeriez aussi des démonstrations, peut-être encore plus étendues dans une année ?
C'est pas impossible, puisque du coup, la communication auprès du grand public, la sensibilisation, c'est un gros axe de travail. Donc, c'est pas exclu qu'on imagine d'autres types de manifestations. Mais bon, dans l'immédiat, on reste sur le format estival, en fait. Vive ma vie de bûcheron.
Parmi les partenaires, vous en citiez quelques-uns, mais est-ce qu'il y a des associations aussi, de personnes ou de citoyens qui souhaiteraient peut-être proposer ou être en partenariat avec vous autour de l'aspect de la forêt ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des choses qui existent à l'heure actuelle?
Alors, nous, on travaille sur certains sujets, mais avec des associations plutôt de propriétaires forestiers, là, du coup, pas vraiment de citoyens proprement parler. Mais on n'a pas eu de sollicitations. Néanmoins, on est un parc, on est ouvert. Donc, s'il y a des propositions qui se font jour, on se donnera un plaisir de les accompagner.
Mathieu Rivero, vous, je ne sais pas si Baptiste, vous avez posé la question il y a 4 ans, qu'est-ce qui vous a amené sur le plateau du Vercors et qu'est-ce qui vous attire sur cette mission pour le bois et la forêt ?
Alors moi, du coup, à la base, j'ai une formation forestière. Hein. J'ai commencé à travailler au CRPF, qui est le Centre Régional de la Propriété Forestière, sur le Sud-Isère. Et puis, c'est un établissement public qui a vocation à orienter, à développer la gestion des forêts privées. Donc ça passe par du conseil auprès des propriétaires. Et puis, en fait, on a une convention de partenariat avec le Parc Naturel Régional du Vercors. Et dans ce cadre-là, moi, je suis à mi-temps, en fait, sur les deux postes. Donc au CRPF et au Parc du Vercors depuis 2018. Donc l'avantage de travailler au parc, c'est que ça diversifie la vision de la forêt, qui est vue sous l'angle économique, mais aussi sous l'angle, je dirais, plus social, sociétal, et puis l'angle biodiversité. Donc voilà, ça fait des missions différentes. Le travail auprès du grand public, c'est toujours plaisant aussi, puisqu'il y a la satisfaction d'avoir quelque chose à transmettre, d'éveiller les curiosités. Donc du coup, voilà, ça diversifie le panorama du métier.
Eh bien, Mathieu Rivero, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci également.
Au revoir.
Au revoir.